L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour et bienvenue dans la JT du local. Nous sommes aujourd'hui le jour de la fête de la musique, et oui, le lundi 21 juin. Et je suis avec grand plaisir, comme toujours, en compagnie de Claire. Salut Claire, comment ça va?
Et oui, salut Marie, salut tout le monde. Ben, pas grand soleil aujourd'hui, mais c'est pas grave parce que tu es mon soleil, Marie, donc tout va bien.
C'est beau, c'est magnifique. Puis je disais fête de la musique, on le sait forcément, cette année, il va falloir s'attendre à une fête de la musique comme d'habitude, avec beaucoup de monde en extérieur, mais il y aura quand même des petites possibilités, on vous en parlera tout à l'heure. Et le reportage, c'est toi qui l'as fait, Claire, c'est sur le nouvel espace bien-être proposé par la Croix-Rouge à Laval.
Oui, c'est ça, on ne s'attend pas forcément de la Croix-Rouge à un aspect un peu social comme ça, on pense tout de suite au secourisme. Et en fait, non, il y a plein d'actions sociales, dont l'espace bien-être pour l'esthétique, le vernis à ongles, des soins du visage, etc. Pour vraiment tout le monde en plus, donc c'est vraiment super.
Et donc un nouveau projet que tu nous présenteras tout à l'heure. On va aussi partir justement dehors, en plein air, au milieu des ruches et des abeilles, puisque le lycée agricole de Laval propose depuis maintenant 2 ans une nouvelle formation, un certificat de spécialisation en apiculture, et c'est une formation qui se développe, qui attire de plus en plus, on en parlera justement avec les différentes personnes rencontrées sur place, qu'ils soient formateurs ou apprenants. Et puis lundi, c'est lecture, c'est le coup de cœur aime lire, surtout avant l'été. Vous entendrez justement les conseils de Christophe.
Mais tout de suite, Marie, un point sur l'actualité. Premier tour des élections départementales et régionales et une forte baisse des participations.
Et oui, c'est valable au niveau national, mais aussi au niveau local. Hein, 32% seulement de votants ici en Mayenne. Une abstention record alors que ce taux de participation était à plus de 40% en 2015. Et du fait justement de cette abstention record, aucun binôme n'a été élu dès le premier tour, malgré des scores parfois impressionnants. La majorité départementale est arrivée en tête dans 11 cantons sur 17. Et puis une particularité pour les 3 cantons de Laval, puisque c'est la gauche, avec notamment des élus issus de la majorité municipale, qui s'est imposée lors de ce premier tour. Et puis parlons des élections régionales. Christelle Morançais, la présidente sortante de la région, est en tête avec plus de 34% des votes. Ensuite, avec pas mal d'écart, Mathieu Orphelin pour la gauche écologiste à 18,7% et Guillaume Garot, là aussi pour le coup, à touche-touche à 16,3% pour l'Union de la gauche. Les deux candidats ont d'ailleurs annoncé leur alliance pour le deuxième tour ce dimanche 27 juin. Seront aussi présents Hervé Juvin pour le Rassemblement National avec 12,53% des voix et François de Rugy pour La République En Marche avec quasiment 12% des voix.
200 salariés du groupe LDC en grève depuis ce matin.
Ils font partie de l'entreprise de volaille Rémy Ramon, des sites de Javron-les-Chapelles et Lassay-les-Châteaux. Leur volonté, protester contre la suppression de 3 primes, les primes d'assiduité, primes d'intéressement et primes de participation, sans parler de la prime spéciale Covid-19 qu'ils n'ont pas non plus touchée. Ils espèrent être reçus cet après-midi par leur direction.
2 blessés graves après un accident à Château-Gontier.
Une voiture a percuté un arbre sur la route d'Angers, c'était hier vers midi. Le conducteur et son passager, âgés d'une 40aine d'années, ont été grièvement blessés. L'un a été héliporté au CHU d'Angers et le second à l'hôpital de Laval.
Malgré les fortes pluies de ces derniers jours, les restrictions d'eau maintenues au sud-est du département.
Dans le bassin de la Sarthe-Aval, de Saint-Denis-d'Anjou jusqu'à Saint-Georges-sur-Erve, la préfecture fait appel au sens civique des utilisateurs pour réduire leur consommation d'eau. La carte des cours d'eau de la Mayenne, qui vient d'ailleurs d'être révisée pour tenir compte des expertises réalisées sur le terrain par les services de l'Office français de la biodiversité et la direction départementale des territoires de la Mayenne. Une carte référence pour l'interdiction d'abreuvement direct des animaux et pour l'interdiction d'application des phytosanitaires au voisinage des cours d'eau, elle est consultable sur mayenne.gouv.fr.
Une fête de la musique petit format ce 21 juin.
Les rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique, et oui, sont toujours interdits, rendant difficile l'organisation de concerts, même en extérieur. En revanche, il reste possible dans les bars et restaurants en petite jauge et dans certains établissements recevant du public, comme le week-end dernier à la salle des Ondines à Changé.
Nouveau podium pour Nathan Biel au Mans.
Le pilote mayennais et son coéquipier Romain Carton ont terminé à la 2e place sur cette 3e manche de la Ligier JS Cup France. De bon augure avant la prochaine étape prévue au Castellet le 3 septembre prochain. La Croix-Rouge à Laval, Claire a ouvert un tout nouveau concept, un espace bien-être.
Depuis longtemps, la Croix-Rouge, ce n'est pas que du secourisme, mais elle développe aussi des actions sociales. Raymond Werven est responsable du Vestiboutique, qui permet d'acheter des vêtements à petit prix et qui depuis peu accueille l'espace bien-être.
J'essaye d'élargir un petit peu plus la boutique dans l'écoute. La réflexion, je dirais les besoins, où après les confinements, il y avait ce besoin, il y avait un appel, on voyait les gens de plus en plus tristes, fermés, je dirais. Donc le fait d'avoir des rafraîchissements au niveau du visage, un peu de maquillage, tout ça, ça éclaircit leur visage et ça éclaircit le regard, ça les rend souriants. Je pense qu'ils prennent conscience qu'on peut s'occuper d'eux aussi. Et qu'il y a quelqu'un pour les écouter et justement leur apporter un petit peu de bien-être, ne serait-ce qu'un peu de vernis à ongles, c'est toujours un plaisir pour les dames. On a des messieurs aussi qui viennent pour le visage, avoir un petit masque, des petites crèmes, des petites choses comme ça, et bien ils repartent, ils sont heureux. Il y a cette espèce d'appel, je dirais, de prendre soin des gens. Et de leur apporter, oui, ce petit brin de bien-être dont le besoin se fait sentir de plus en plus. Que ça peut durer 20 minutes, une demi-heure, voire une heure et demie. Donc, du coup, ces personnes-là, elles prennent le temps de discuter. Et puis, je dirais qu'elles déposent aussi leur sac, qui est parfois un petit peu trop lourd à porter toute seule. Et on est là pour les écouter aussi. Ils se sont posés, en fait. Ils repartent, ils sont contents, ils sont heureux.
Bruno de l'Avenir-Lussan, président de la direction territoriale de la Croix-Rouge depuis le 1er juin. Le confinement a accéléré les choses, bien sûr. Non, il est nécessaire de se préoccuper des conséquences de la Covid et faire en sorte que les gens puissent se réinsérer dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que nous avons axé notre action vers le bien-être, vers l'idée de remettre l'homme debout, c'est-à-dire de lui redonner goût à la vie. Hein, que ce soit d'ailleurs les personnes âgées ou que ce soit les étudiants, tous ont été impactés par ces différentes périodes de confinement.
Jimmy Coueffé, je suis le nouveau président de l'unité locale de Laval. Je suis prêtre à Mayenne. Ce que j'ai envie de souligner par rapport à la Croix-Rouge, c'est sa capacité à rebondir face à des situations d'urgence nouvelle, à s'inventer, à se réinventer. C'est la réponse à la situation actuelle que nous vivons. Hein. On est connu plus pour le secourisme, mais face à des situations nouvelles, on voit bien que la partie sociale doit se développer à la Croix-Rouge.
L'espace bien-être est accessible par rendez-vous. Pour cela, il faut contacter l'unité locale de Laval au 02 43 37 26 20. L'espace bien-être ainsi que les locaux de l'unité ont d'ailleurs besoin de bénévoles, mais aussi de nouveaux locaux. Donc n'hésitez pas à les contacter à ce même numéro 02 43 37 26 20.
Et oui, en tout cas, on a bien toutes les infos. Ce numéro, de toute façon, si vous n'avez pas eu le temps de le noter, ce sera possible en réécoutant notre émission en podcast sur l'autreradio.fr. Mais tout de suite, on fait une petite pause en musique avec Guts et It's Like That. Word up. Yeah, it's cool, Killer. One time live for your motherfucking mind. Feel. Always remember, keep your guard up when your eyes low. Cause the dough will make your homies go behind you. That's true, look what the cash do. Mad proof, bags rule, they told you the cash rules. I guess I'm different cause I go by regulations. Closer to the spirit world, I had some revelations. Dreams vivid, clairvoyant homie was born gifted. Consistent positivity, my shaping never shifted. Cause niggas is shifty, reptilian sexy, niggas is mixy. Trusting them risky, you keep it 100 but they keep it 50. They trying to get rich or die trying. Rico or Mitch, just trying to get paid for, I ain't lying. All eyes open, un, deux, trois. See the enemies, disguised as friends, get front on one. Yeah, you know that look, he never get him a stuck. Cause ain't no such thing as halfway crooks. Word up. Yeah, I'm speaking on the facts of the world right now. Cause it's wicked out of these mean streets, you dig? Check, check,
Je m'appelle Cool Killer, ain't no iller. Off the wall, Mike Jack, a born thriller. Sim Simmer, who got the keys to the bimmer? All white, 22s, drop top, see the moon shimmer. Scintillation, got him high on state of elevation. No fabrication, coupe is food, don't need no lubrication. Call me Flash, cause I'm lightning enticing. You heard what happened in my last fight, when I hyped in. And that's word to Big Yo Yo, throw elbows to any nigga trying to catch rap, they bound to collapse the D-I-double-L-O-N-C-double-O-P. Catch me liming with a Cotty out from Normandy, you see. She love the way I smile, I can't blame her. But if she get too attached, I tell her adios, I'll see you later. It's like that, y'all. It's like that, y'all. It's like that or the that. It's like that, y'all. Ba 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 da. Say ba ba da ba da da. Ba ba da ba da ba da da. Got them horns right now, you know what I'm saying? It's feeling good. Feel that jazz vibe. Wah ba ba da. Wah ba ba da. Wah ba 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 da.
It's like that dans l'agité du local sur l'autre radio. Et on va parler, comme promis, on vous promet là d'aller, alors j'allais dire dans les champs, pas forcément dans les champs, mais en tout cas en extérieur, près des ruches et surtout en compagnie de ceux qui peuvent s'en occuper. Ils sont futurs apiculteurs et ils s'occupent de près de 350 ruches de production de miel bien sûr. Les apprenants du lycée agricole de Laval suivent pendant 7 mois un certificat de spécialisation en apiculture. C'est la deuxième année que cette formation est mise en place au sein du CFPPA, le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole. Une formation pour adultes en alternance avec des périodes de stage auprès d'apiculteurs. Une formation qui attire de plus en plus de monde. Interview sur place.
Jean-François Rimbaud, donc coordonnateur de formation CS Apiculture au CFPPA Agricampus Laval. C'est la deuxième année que nous faisons la formation CS Apiculture, mais l'apiculture existe depuis très longtemps au sein des formations du CFPPA. Alors c'est un CS, ça veut dire certificat de spécialisation. C'est un diplôme de niveau 4, donc qui permet en fait de se spécialiser dans trois modules principaux, qui sont le premier c'est la conduite des colonies, le deuxième c'est le renouvellement des colonies avec tout ce qui est renouvellement des essaims, élevage des rennes, et le dernier c'est tout ce qui est récolte, transformation, stockage. Donc c'est vraiment, on ne parle que d'apiculture.
Vous dites que c'était présent déjà avant, c'est-à-dire que c'était en complément d'une formation plus large peut-être ?
Bien oui, effectivement, historiquement, le CFPPA est impliqué dans la filière apicole et propose donc des formations essentiellement à travers le BPREA, donc le brevet de responsable, brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole, et qui dans lequel on a des temps de formation spécifiques à l'apiculture. On a aussi des modules courts, tels que c'est initiation petit rucher, pour des gens qui ne cherchent pas de professionnalisation, qui font plutôt ça en tant qu'amateurs, qui peut-être un jour voudront basculer. Et puis on peut avoir éventuellement d'autres modules sur lesquels on est en train de réfléchir et pour mettre en place, notamment tout ce qui est élevage, tout ce qui est sanitaire.
Justement, ça va aussi avec le fait qu'on voit de plus en plus de ruches, et comme vous le disiez, il y en a qui font ça pas forcément de manière professionnelle.
Alors c'est effectivement en même temps un bien et un mal, en ce sens qu'on a beaucoup de gens qui sont intéressés par l'apiculture, on a beaucoup de vecteurs de communication pour, entre guillemets, sauver l'abeille. Après, là, en ce sens, ça peut être un mal, puisque la vraie problématique de base, c'est la ressource mellifère. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y en ait trop d'abeilles par rapport à un environnement qui produit peu pour nourrir justement ces abeilles. Ça peut être un facteur limitant, voire une vraie problématique.
Pour revenir du coup sur la formation, vous, votre rôle en tant que tel, quel est-il par rapport à la formation ici ?
Alors mon rôle, c'est de travailler avec les formateurs, et aussi travailler avec le pôle administratif. Parce que d'abord, premièrement, il faut qu'on vérifie la cohérence du projet de l'apprenant par rapport à ce que la formation propose. Mais en même temps, il faut qu'on ait un plan de formation, un dispositif de formation qui soit en cohérence avec une certification, parce que c'est un diplôme du ministère de l'Agriculture, donc qui est reconnu. Donc dans toutes les actions pédagogiques qu'on met en place, dans toutes les articulations de suivi qu'on met en place, eh bien on doit être vigilant sur justement cette cohérence, non seulement sur le programme prévu, mais aussi sur la manière dont on le met en œuvre, mais aussi des fois dont on l'adapte. Mais en même temps, il y a tout un suivi administratif, donc il y a un gros travail d'équipe où on doit faire attention dès le départ et pendant la formation à ce que les personnes aient un financement pour la formation, mais surtout une rémunération pendant la formation, parce qu'il faut que les gens puissent aller au bout des objectifs de formation. Il ne faudrait pas que ce soit des données, purement économiques qui les empêchent de poursuivre, qui leur fassent arrêter leur formation et qui les bloquent dans leur projet. Et puis aussi, on visite les entreprises, c'est-à-dire, par exemple, début mai, je suis allé voir des maîtres de stage. Et j'ai fait quasiment 1000 km pour voir 5 situations de stage, parce qu'en fait, comme on rayonne dans le Grand Ouest, bon, à chaque fois toujours très bien accueilli, mais c'est hyper important parce que ça valorise aussi la contribution des maîtres de stage, mais aussi le vécu des apprenants. Parce que ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que la formation est dure 7 mois, de mars à septembre. On a 12 semaines d'immersion, 12 semaines au centre de formation, et on a à peu près 16 semaines d'immersion professionnelle. Elle est importante parce qu'en fait, toutes leurs évaluations sont basées sur du retour d'expérience.
Quel est le profil en général des gens qui s'engagent dans cette formation ?
Alors le profil qui sont, alors il est très varié, très divers. Alors d'abord, faut que ces gens-là aient un minimum, je dirais, d'attirance de goût, voire d'expérience pour l'apiculture. Alors des fois, on peut avoir effectivement des personnes qui ont très peu d'expérience, mais qui ont des projets, je dirais, gradients, en ce sens que, avant de vouloir être salarié en apiculture et autonome, ils comprennent qu'au cours de la formation, à un moment donné, en fonction de ce qu'ils vont découvrir en stage, peut-être que ils vont développer leurs compétences. Alors on a généralement trois profils, soit se spécialiser dans l'apiculture en tant que salarié dans un premier temps, puis peut-être un jour, pourquoi pas voler de ses propres ailes. Des fois, on a aussi des personnes qui sont dans le cadre d'une double activité, c'est-à-dire une activité apicole à côté d'une autre activité, agricole ou non d'ailleurs. Et puis, on a aussi des personnes qui ont des projets aussi de ferme pédagogique ou la besoin de la maîtriser la connaissance. Et puis, on a des personnes qui veulent peut-être aussi faire bouger les lignes et peut-être veulent connaître la formation apicole pour retourner dans leur secteur d'activité agricole et voir comment on peut justement faire combiner les évolutions futures.
Julien, André, stagiaire, étudiant du CS Apiculture au CFPPA de Laval. On est en train d'insérer des cellules royales, donc futures reines, dans des ruchettes orphelines, on appelle ça des nuques, voilà, pour que les abeilles qui sont dedans puissent élever la future reine qui va naître dans quelques jours. C'est assez ressemblant à une morille, effectivement, de couleur marron, jaunâtre. Et donc, après quelques jours dans la ruchette orpheline, la reine vierge va naître. Et elle va ensuite procéder à une fécondation naturelle en plein ciel. Et revenir dans cette ruchette pour commencer à pondre et renouveler la population de la ruchette. C'est de 1 à 3 ans, une reine dans une colonie aujourd'hui. C'est fragile, c'est très fragile. En fait, à l'intérieur, c'est une abeille qui est encore en constitution, hein, donc elle reste fragile au choc. Un petit choc sur la morille et la reine va pas naître, en fait. Et du coup, la colonie orpheline va rester orpheline et va même s'affaiblir en population et presque disparaître si on fait rien, quoi. C'est un exercice où il faut être appliqué au geste et pas taper cette fameuse morille, cette fameuse cellule royale dans les cadres. On a des ruches plus classiques, là, qui sont des ruches, on va dire, avec 10 cadres à l'intérieur. Là, les ruches qu'on appelle de fécondation, les nucléi, hein, qui nous servent à élever finalement des futures reines fécondées, et bah, y en a à peu près une quinzaine, là, voire un peu plus, une vingtaine. Et donc, on viendra récupérer les reines fécondées dans une certaine date pour les utiliser soit dans des ruches de production qui n'ont plus de reines, qui ont perdu leur reine et qui vont commencer un nouveau cycle dans une nouvelle colonie. Et puis, une fois qu'on a retiré la reine fécondée du nucléi, on va réintroduire une cellule et recommencer pour avoir finalement une conduite de production de reines fécondées pour entretenir les ruchers de production, quoi. Après, combien d'abeilles dans une ruche? C'est la question piège. C'est difficile de répondre. Dans des petites ruchettes, des petits nucléis comme ça, c'est de l'ordre de 1000 abeilles. Voilà. Alors que dans une colonie, on va dire classique, en production, on va de 10 000 à 50 000 abeilles en pleine expansion, quoi. Ça fait de la population autour de nous, mais là, les butineuses sont dehors. Y a du soleil. Et elle profite du soleil pour aller butiner, ramener du pollen et du nectar dans la ruche, quoi. On a mis parcours, on a commencé le 1er mars, cette année, et on va finir en fin septembre, avec une alternance de 15 jours en cours et un mois de stage. 15 jours en cours, un mois de stage, donc c'est très, très intéressant, puisqu'on a la partie théorique en cours, à l'école, et puis le stage qui est très pratique, avec des vrais professionnels qui nous mettent vraiment dans le bain sur les ruchers de production, sur de l'élevage, etc. etc. Donc c'est très, très intéressant, ce compromis théorie, et même à l'école, on est sur un rucher école, donc on pratique aussi à l'école, mais avec un peu plus de temps, avec quelqu'un qui nous accompagne pédagogiquement, et c'est le mixte stage rucher école cours, c'est très très intéressant, très enrichissant, on apprend très vite. C'est rassurant aussi pour ceux qui veulent s'installer derrière ou travailler derrière dans une installation, dans une ferme apicole. L'objectif, c'est d'en faire mon métier, évidemment. Alors, en tout cas, plus j'avance dans la formation, plus j'en suis convaincu. Avec encore une hésitation sur est-ce que je m'installe tout de suite en tant qu'apiculteur professionnel ou je fais quelques saisons chez un professionnel qui est déjà en place pour acquérir plus d'expérience. Mais je me laisse un peu le temps de rencontrer aussi les professionnels, avoir des avis et puis connaître bien la filière apicole pour connaître les débouchés et pas partir n'importe comment. Que l'installation est relativement compliquée. Quand on part de rien ou de pas grand-chose, vous imaginez que si vous aviez une ruche, pour multiplier, arriver à 250-300 ruches pour vivre de l'apiculture aujourd'hui, pour une personne, il faut à peu près 300 ruches. Donc si vous partez avec une ruche dans votre jardin, vous êtes motivé, vous aimez ça, c'est pas en un an qu'on arrive à 300 ruches, sauf si vous achetez 300 essaims à un apiculteur, mais généralement ça se fait pas comme ça, puis ça coûte de l'argent. Donc il faut multiplier chaque année et faire progresser son cheptel jusqu'à arriver à l'objectif que vous êtes fixé, quoi. Mais ça se fait pas en un an, on parle plutôt de projet de 2 à 5 ans suivant la rapidité de l'installation, quoi. Quand on se fait piquer, on reste dedans, quoi. C'est de la passion dans un premier temps, c'est de la curiosité aussi, il faut être très très curieux. Et aussi une découverte de son environnement. On est plus attentif à ce qui pousse par terre, à ce qui pousse dans les arbres, à ce qui fleurit. Enfin, moi, je sais que précédemment, je connaissais ma campagne en faisant du vélo, de la course à pied, mais je regardais pas les fleurs comme je les regarde aujourd'hui.
Julien Dezotte, donc du coup apiculteur et formateur en apiculture. Alors formateur depuis une petite dizaine d'années. Après, je fais un peu de pédagogie et je partage sur le monde apicole depuis encore plus longtemps. Et j'ai la chance de faire de l'apiculture depuis que j'ai 8-10 ans. Dès le début, ça m'a passionné parce que c'est passionnant. Vraiment, quand on ouvre une ruche, il y a tellement de choses à voir, à découvrir, à apprendre que c'est très, très, très vite passionnant. Et quand on est petit, forcément, c'est encore plus magique, quoi.
J'imagine 8-10 ans, ça veut dire que votre famille avait des ruches.
Oui, c'est ça, ouais. Mon père avait des ruches. Ouais. Quand j'étais petit, il y a toujours eu entre 5 et 15 ruches au minimum. Alors oui, au début, en toute honnêteté, hein, c'était magique, mais au début, c'était bon, bah viens m'aider, quoi. Comme on peut aider son père à bricoler ou quoi que ce soit. Et arrivé à l'adolescence, c'est bon, bah non, je vais voir les copains, quoi. Et puis c'est quelque chose qui m'a vite manqué. Donc oui, en fait, ça m'a toujours suivi et voilà, quoi.
Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous passionne?
Le côté atypique de cet insecte. Enfin, on fait peu d'élevage d'insectes, donc depuis peu, si on fait d'élevage d'insectes pour les farines, etc. On peut élever aussi des bourdons, par exemple. Voilà. Donc le côté à part et le côté aussi vivre en commun pour le groupe. Une colonie d'abeilles, ça vit pour le groupe, ça n'a pas d'ego, en fait. Et ça, c'est super intéressant. Et en plus de l'abeille, parce que si je fais de l'apiculture, c'est d'abord pour l'abeille, mais en plus de l'abeille, ça offre quand même des produits de la ruche qui ont des vertus tip-top. Si on pense au miel, à la cire, au venin, à la gelée royale et à la propolis, c'est quand même 5 produits de la ruche incroyables. Donc, pour tout ça.
Donc là, en tant que formateur, comment s'organise justement votre année, leur parcours?
Alors on établit un calendrier de cours et de tâches. On essaye le plus possible de le respecter, mais on est quand même un peu embêté par la météo. Surtout cette année, on n'a pas eu de chance au printemps, il n'y a pas fait beau du tout. Donc voilà, on jongle avec la météo, mais on essaye quand même de respecter un programme. Et le plus difficile, c'est on fait en fonction d'eux, quoi. Et eux ont des niveaux qui sont complètement différents et ont aussi eu des stages complètement différents. Donc il y a des personnes qui peuvent être très avancées et d'autres qui peuvent être très en retard. Donc on essaye de mixer avec tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en TP, mais tout le monde va un peu où il veut, où il sent qu'il a un manque, quoi.
Comment est-ce que vous adaptez justement entre déjà les parties peut-être plutôt théoriques et puis ici en TP où justement il faut s'adapter en fonction de ce qu'ils ont vu en stage ou pas?
Eh ben, on essaye de garder un tronc commun théorique qui est très fixe. Si possible, on fait le matin et l'après-midi, on va aux ruches. Et si on ne peut pas aller aux ruches, on continue cette partie théorique et on ira aux ruches quand on pourra, quoi. Voilà. Enfin, mais comme vous l'avez dit, on s'adapte un peu tout le temps. C'est du sport, c'est clair. Mais ça marche plutôt bien. Enfin, sauf si vous disent le contraire, les stagiaires, mais globalement, ça va. Ça marche plutôt bien. Et encore une fois, on fait en fonction de... Si on va aborder une partie technique que tout le monde a déjà vue en stage, ils n'ont même plus envie de le voir parce qu'ils ont tous acquis le truc, bah on l'aborde pas. Dès qu'on sait ce que c'est une abeille, qu'on sait les différentes castes dans une colonie d'abeilles, qu'on connaît leur rôle, qu'on comprend le développement d'une colonie d'abeilles sur l'année, bon bah déjà là, on peut faire pas mal de choses. Okay, mais c'est ce que je viens de vous dire, là c'est en 3 mots, mais ça prend vachement de temps, quoi. C'est pour ça que si je peux donner un petit conseil, c'est que si les personnes veulent des abeilles chez eux parce qu'ils entendent que c'est en voie de disparition, etc., etc., il ne faut pas prendre des ruches à production de miel, il faut installer des hôtels à insectes. Parce que gérer une ruche, c'est un peu plus compliqué qu'on peut le penser.
Et donc ici, là, la formation donc, de 7 mois, elle est récente, je crois, ça fait un ou
c'est
deux
la
ans, deuxième année,
deuxième
c'est
session.
Ça? Deuxième année, parce qu'il y avait une demande ou comment ça se fait qu'elle a été
créée? Les deux, il y avait une demande, il y avait aussi un espèce de vide, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de formation technique, de formation pratique en apiculture qui était certifiante, quoi. Donc voilà, donc elle avait tout son intérêt d'exister, ouais.
Justement, un secteur qui se développe plus depuis une dizaine d'années ou pas forcément, c'est juste qu'on en parle plus?
Eh ben, c'est les deux. Vu qu'on en parle plus, ça se développe plus. Okay, et je pensais que cet engouement allait être freiné au bout d'un moment, mais pas du tout. Donc ça rejoint ce que je vous disais au début, l'abeille est magique. C'est intéressant, enfin voilà, c'est poétique tout ça, machin. Donc les gens restent dedans. Après, voilà, il faut bien raisonner, quoi. Il faut bien réfléchir. Donc quand on ne veut pas en faire son métier, on va se former pour bien comprendre, pour ne pas faire de bêtises, pour éviter les maladies, tout ça. Et quand on veut en faire son métier, bon, on se forme encore plus, okay, et on réfléchit à l'endroit où on va s'installer. Parce que pour l'abeille, c'est peut-être pas intéressant, mais aussi pour l'humain. Peut-être qu'il y a déjà plein d'apiculteurs autour. Donc il faut bien raisonner le truc, parce qu'il y a de plus en plus d'installations. Donc il va falloir se partager le territoire.
La formation des stagiaires actuellement en place se termine fin septembre, avant de repartir justement sur un nouveau cycle de formation en mars 2022. On revient d'ici quelques minutes, le temps d'écouter Bully avec Train.
My focus, my figure, my sexuality, and how
C'était Trying de Bully dans la JT du local. C'est évidemment ce qu'on vient d'entendre et d'écouter. C'est l'heure désormais d'écouter justement là aussi un coup de cœur littéraire et un coup de cœur, oui, de littérature de Christophe Desmiranjou. Un conseil d'ailleurs pour un livre cet été.
Emily Ranjou, à Château-Gontier, vous présente chaque semaine son coup de cœur littéraire. Pour les grands et les petits.
Bonjour! Je vais vous présenter ce qui sera sans doute l'un des livres de cet été. Il vient de sortir aux éditions Grasset. C'est le troisième roman de Laetitia Colombani qui s'intitule « Le cerf-volant ». Laetitia Colombani n'est pas une inconnue dans le monde de la littérature puisqu'elle avait fracassé les ventes avec son fameux titre « La tresse ». Quelques années plus tard, elle avait connu un autre beau succès avec Les Victorieuses. Eh bien, cette fois-ci, pour son troisième roman, elle nous ramène en Inde. C'est vraiment un pays qui la fascine et qui l'horrifie. C'est l'histoire ici d'une jeune femme, Léna, qui va abandonner la France alors qu'elle est enseignante. Et elle décide de partir en Inde, au bord du golfe du Bengale. Et lors d'une baignade, elle va manquer de se noyer. Et elle devra sa vie à une jeune fille de 18 ans qui va la secourir. Et là, une relation va naître entre Léna et cette jeune fille. Cette jeune fille, elle a 18 ans et elle fait partie de cette classe ou de cette caste des intouchables, des enfants ou des jeunes adultes qui travaillent sans relâche dans des conditions mais affreuses. Et Léna va découvrir en fait de plein fouet l'enfance des jeunes indiens dans ces classes, dans ces castes sociales, et elle va prendre le problème à bras le corps en pensant que l'éducation est la seule sortie possible pour ces enfants pour sortir de cette maltraitance et de cette violence. Elena va décider de créer une école pour ces jeunes filles. Voilà, c'est le pitch de départ. Bien évidemment, Léna va aller de surprise en surprise, mais aussi d'émerveillement en émerveillement. Voilà, c'est comme avec La Tresse, on est dans un récit initiatique qui est plein de sincérité, plein de justesse, parce que la littérature de Laetitia Colombani n'est pas forcément de la grande littérature, mais c'est des phrases, des textes, des paragraphes, des idées qui viennent vraiment du cœur. Et c'est un livre très généreux qui va absolument vous ravir si vous aviez succombé à ses écrits comme La Tresse et Les Victorieuses. Alors voilà, le livre est jaune et noir, comme La Tresse, le jaune comme la beauté de l'Inde et le noir aussi comme son côté sombre. En tout cas, voici le livre de l'été et il saura vous accompagner pendant ces 2 mois de plage et de repos. Bonnes vacances !
Retrouvez Aime lire en joue, 10 places Paul Doumer, à Château-Gontier, et sur l'autre radio.
Et merci beaucoup, bonnes vacances à vous aussi, si vous l'êtes déjà. Nous, on va attendre encore un petit peu avant de prendre nos vacances. N'est-ce pas, Claire ? On ne prend pas les vacances tout de suite et on passe aux initiatives. Vous avez plein d'idées pour la ville de Mayenne, et bien c'est le moment de se lancer.
La ville lance son premier budget participatif. Le principe, lancer une plateforme qui permettra de proposer son projet pour la ville. Pour pouvoir émettre une idée, il faut avoir plus de 10 ans, habiter la ville et que le projet s'inscrive dans une logique d'intérêt général pour le cadre de vie ou le lien social. Toutes les propositions sont possibles, de l'installation d'un banc à la création d'une aire de jeu. La plateforme est ouverte jusqu'au 15 octobre et vous pouvez la retrouver en tapant jeparticipe.mairie-mayenne.net.
On continue et cette fois-ci, Claire, on prépare notre CV pour jeudi.
Job dating ce jeudi à Château-Gontier en partenariat avec Pôle emploi et le Crédit Agricole Anjou-Maine. 10 postes de conseiller bancaire sont à pourvoir. Le format sera des entretiens de 15 minutes sur la motivation, mais aussi un moment pour découvrir l'environnement de travail. Si vous êtes intéressé, c'est ce jeudi 24 au Crédit Agricole de Château-Gontier, c'est le 8 avenue Razilly, et il faut s'inscrire au 02 43 07 11 85.
Merci beaucoup Claire pour toutes ces initiatives. Encore une fois, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, entre autres les numéros de téléphone et peut-être d'autres infos pratiques, vous pouvez tout retrouver dans l'émission qui sera en podcast dès cet après-midi sur l'autreradio.fr. La ville de Laval se prépare à accueillir le Tour de France. Tour de France qui fera étape en Mayenne le 30 juin pour un contre-la-montre de 27,2 km entre Changé et Laval. Mais au-delà du jour même de l'épreuve, l'accueil de la compétition sportive est prévu bien en amont. C'est d'ailleurs tout l'objet de notre série de cette semaine, avec aussi un programme d'animation prévu pour mettre en valeur les associations et acteurs du territoire. C'est ce dont on parle aujourd'hui, puisque ce programme est coordonné notamment par Delphine Lepéculier, chargée de projet sur la ville de Laval.
L'arrivée du contre-la-montre sur Laval le 30 juin a fait qu'on a voulu aussi mettre les habitants en situation, les Lavallois en situation, en leur préparant une fête populaire qui s'appelait initialement le week-end fête du Tour. Et au vu des conditions sanitaires, on a été obligé de remodifier un petit peu le format qui est devenu maintenant le mois fête du Tour. Le mois fête du Tour, c'est un jour, une animation. Donc en fait, la ville de Laval n'a pas travaillé seule, elle s'est appuyée sur les différentes associations, sur les différentes forces vives de la ville de Laval. Donc différentes associations, qu'elles soient sportives ou non, organisent des temps forts, organisent des actions sur l'ensemble de la ville. Et donc tous les jours, la ville de Laval est en capacité de diffuser et de communiquer sur les actions qui vont avoir lieu sur la semaine à venir. La volonté, c'est vraiment que ce mois du Tour, et que en tout cas l'arrivée du Tour de France, soit une fête populaire, donc accessible à tout le monde. On n'est pas que sur un public sportif, mais on est vraiment sur un public famille, un public de personnes seules, un public senior, etc. Donc la priorité, c'était de pouvoir proposer des actions, des animations pour toute tranche d'âge, et quels que soient ses centres d'intérêt, pour que chacun puisse participer d'une manière ou d'une autre à ce mois du Tour. Comment permettre à chacun de pouvoir rencontrer du monde, de pouvoir aussi participer. Par exemple, on a une asso à soi qui a construit un livret mettant la femme en avant dans le monde sportif. Donc on va découvrir leur livret et leurs différentes affiches qui sont basées sur des interviews de sportifs lavallois. On va avoir aussi des actions, ce qu'on appelle nous vélos solidaires en fait. Ce sont des dons de vélos qui ont été faits, donc on tient à remercier Emmaüs, qui vont être réparés et qui ces vélos vont être par la suite redonnés à des associations caritative à des personnes qui en ont besoin, soit comme moyen de transport pour aller travailler, mais aussi comme vélo moyen de renouer des liens dans la famille, c'est-à-dire voilà, des petites balades en vélo avec les enfants, etc. Donc les personnes pourront les utiliser. Sur cette action-là, on a aussi un autre partenaire qui est Médouane Habitat, et on tient à les remercier aussi parce que c'est tous ensemble qu'on arrive à faire des beaux projets. Sur les autres aspects, on va avoir aussi des conférences, par exemple au CREF, on a la maison de quartier Laval-Nord qui organise une table ronde sur le vélo dans tous ses états, le vélo comme pratique sportive, mais aussi dans la vie quotidienne ou en tant que loisir, comment ça se passe, et échanger un petit peu sur les points de vue, sur les besoins, sur les idées, etc., qu'on pourrait mettre en place. Le Tour de France est une course, mais on va accueillir aussi une autre course qui s'appelle Gravel of Legend. Donc c'est une course qui part de Normandie, qui va s'arrêter à Laval donc le 25, donc on les accueillera. Donc ce sera une préparation justement au Tour de France qui arrivera quelques jours plus tard.
Programme complet à retrouver sur le site de la ville de Laval. C'est la fin de notre émission L'Agité du Local pour ce lundi 21 juin. Merci Claire, à demain.
Merci Marie, merci tout le monde et à demain mardi.
Et évidemment, on se retrouve demain à 12h15, mais avant à l'antenne, il y aura à 19h Solénoïde, suivi à 20h de la discothèque de Morgane aujourd'hui. Nous on se retrouve demain à 12h15 et je vous souhaite surtout, comme d'habitude, une très bonne journée.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'agité du local.